Alors, c'est la première de, j'espère, plusieurs chroniques de notre collègue, car nos amis de l'émission Trouland, Trudeau-Landry, qui est diffusée tout de suite après Dupont le matin, vont s'alterner comme un service de garde ou quand t'es séparé, là, c'est une semaine sur deux. Fait que cette semaine, c'est Jonathan, la semaine prochaine, c'est Jérôme, comme ça tous les mardis.
On a décidé de s'offrir un Dupont en garde partagée.
Ben, c'est ça, mais c'est surtout suite à des commentaires d'auditeurs qui trouvaient le manque de culture, de scolarité, d'intelligence dans Dupont le matin, qui ont fait que les patrons nous ont obligés à vous accueillir, ce qui m'a fait un grand plaisir. Non, sérieusement, j'en parle pas souvent. La politique, honnêtement, je pense que la population va en parler quand il y a des élections et tout ça, mais aussitôt qu'on voit un vox pop ou quelque chose, les gens sont tellement déconnectés de ce qui se passe politiquement autour d'eux. Tu sais, la politique proche municipale, je pense que demander aux gens qui est le maire de leur ville peut être, on obtiendrait une réponse très élevée, mais le premier ministre, là, peut-être en pandémie c'est différent, mais les premiers ministres qui sont les gouvernements en place, on serait surpris des réponses dans bien des cas.
Absolument, absolument. Puis c'est Jean Lapierre qui disait que tu peux fermer le Parlement à Ottawa. Deux mois après, les gens s'en seront pas rendus compte. Tu fermes l'Assemblée nationale, au bout de deux, trois semaines, les gens vont s'en rendre compte. Tu fermes l'hôtel de ville, deux heures, les gens vont s'en rendre compte. Parce que moi, j'ai toujours les politiciens fédéraux, par exemple, ils flyent à 50 000 pieds en altitude. Ils sont pas connectés sur le plancher des vaches. C'est pour ça que moi, j'aime plus la politique provinciale, je te dirais, là, parce que tu peux faire bouger des choses concrètement. En même temps, t'es pas juste dans la gestion des déchets, des vidanges, du déneigement. Mais bref, de façon générale, la politique, moi, je pense qu'il y a moyen de rendre ça intéressant.
C'est drôle, tu viens de me le faire réaliser d'un coup sec, cette différence entre le fédéral et le provincial. Je crois pas jamais l'avoir remarqué. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime bien Stephen Blainey. C'est un good guy. Il est super gentil. Il est député de Lévis depuis des années pour le Parti conservateur. Mais effectivement, c'est sûr que lui, il nous envoie un petit journal là, que nos gouvernements payent. Tu reçois ça. Ben, c'est vrai, on est quasiment voisins.
Ben oui.
Mais dans le sens où, si tu lis pas son... Puis il y a des petites actions avec les fermières, avec les investissements, mais des actions concrètes de décisions qui ont un impact sur notre vie, c'est vrai que c'est plutôt... Surtout lui, en étant à l'opposition, c'est plutôt faible.
Là. Exact. Le citoyen qui a un problème dans son quotidien... C'est rare qu'il va penser à se tourner vers son élu fédéral. Parce que eux autres, c'est des grandes politiques qui envoient de l'argent aux provinces. Pis, alors que politique provinciale puis au municipal, là, vraiment, t'es dans le concret des gens. Mais tu sais, sur l'intérêt envers la politique, là, moi, ça fait 6-7 ans maintenant que je fais ça, que j'analyse la politique. Puis j'ai toujours dit que moi, je veux que quand je parle de politique, les gens me disent, pis c'est à peu près le plus beau compliment que des fois les gens me font, c'est de me dire, « Krim, quand tu parles de politique, je comprends. » Parce qu'il y a trop d'analystes politiques qui vont analyser pour te montrer à quel point ils connaissent ça plus que toi.
C'est ça.
Moi, je veux que le monde se dise, ben oui, c'est évident. Puis il y a moyen de vulgariser, je pense, puis de le rendre intéressant.
Puis moi, ce que j'aime pas, c'est me faire dire, ah, tu sais, là, la meilleure décision, ce serait qu'ils décident telle affaire parce qu'ils perdront pas d'électeurs. Tu sais, il y a beaucoup d'analystes politiques qui, vraiment, ils analysent pas pour le bien du monde, ils analysent pour le bien du politicien, du parti. Et ça, c'est quand t'es un simple citoyen, honnêtement, t'en as rien à foutre du parti et du reste.
Et c'est ben ça. En fait, c'est le premier sujet que je voulais qu'on aborde ensemble parce que on a parlé un peu de ça dans Trudeau-Landry la semaine passée. Puis tu me disais que t'en avais entendu un bout, puis t'aurais aimé ça approfondir. Fait que je me suis dit, tiens, faisons ça. Dans le fond, la grande question là qu'on se pose, c'est dans les décisions du gouvernement, mettons là, quelle proportion du poids décisionnel c'est en fonction du bien commun? De la santé publique, particulièrement là en période de pandémie, de l'économie versus je veux juste me faire réélire.
Puis mais c'est 100% réélire?
Oui puis non. Oui puis non, OK? Parce que dans le cynisme que la population a, cynisme qui souvent est tout à fait justifié, là, parce que à un moment donné, je dis toujours que les policiers ont couru après, mais j'essaie des fois de le détricoter un peu, là, parce que c'est pas vrai qu'un politicien va juste prendre des décisions en fonction de sa réélection. Si j'avais, mettons, à guesser, pardonne-moi l'anglicisme, un pourcentage, là, en ce moment, en période de pandémie, là, je dirais que c'est à peu près 75% des décisions qui sont prises par le gouvernement qui sont uniquement guidées par « on va-tu sauver nos hôpitaux? Y a-tu moyen de réchapper l'économie? La santé publique, etc. » Puis c'est sûr qu'il y a une espèce de petit 25% qui est « ouais, mais là, si on fait ça, ou si on corrige pas telle perception, on va peut-être avoir la misère à se faire réélire dans deux ans. » Mais mon 75-25, je te dirais qu'en temps normal... pas en temps de pandémie, c'est pas, probablement un genre de 50-50.
C'est ça, hein?
C'est-à-dire que tu y penses tout le temps, sauf que, à ça, je t'ajouterais, il n'y a pas un politicien qui dit « Je vais prendre une mauvaise décision qui va faire mal au monde dans l'unique but de me faire réélire. » Tu sais, tu comprends-tu? Non. Normalement, c'est que tu penses que justement, les gens vont aimer ce que tu vas faire puis ça va t'aider à te faire réélire.
Je comprends. Mais là, c'est parce que en pandémie, là, puis là, on parle de morts, de gens qui meurent ici. C'est sûr que là, les décisions sont beaucoup plus, je trouve, raisonnables que politiques. Donc, quand ils prennent des décisions. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Hier, il y a une décision que je trouvais qui était bizarre, là, puis c'était la sous-ministre, madame, c'est la première fois qu'on la voyait, là.
Oui.
La sous-ministre qui est venue, entre autres, dire, bon, que là, à partir d'aujourd'hui, on annulait tout ce qui était chirurgie d'un jour. Colonoscopie, greffe de rein, ces choses-là. Puis je trouvais ça pas correct parce que il y a bien des hôpitaux dans des régions. Puis je comprends que l'hôpital à Gaspé, il y a seulement 5 lits de soins intensifs. Je comprends ça. Mais une chirurgie d'un jour, ça le dit, c'est d'un jour. Fait que ça pourrait attendre la journée que ça pètera à Gaspé, à Montmagny, à Chicoutimi. Puis ça a pété à Chicoutimi il y a quelque temps. Là, c'est redevenu à la normale. Il n'y aurait pas besoin de faire ça partout parce que le bordel est pris à Montréal. Tu sais, qu'on protège Québec pour souvenir Montréal, je comprends. Mais hier, qu'on fasse un plan comme ça, provincial, je trouve ça dommage pour les gens qui devaient avoir ces chirurgies d'un jour-là. Puis des fois, ils sont banales, mais quand même... S'ils le font, c'est parce que t'en as besoin. Fait que je trouvais que ça, c'était politique dans le sens où ben on va appliquer ça à tout le monde, là, sinon il va y avoir des mécontents. Pourquoi eux autres, pourquoi pas nous autres? Fait que ça, c'est politique, ce genre de décision-là.
Oui, absolument. Mais il faut accepter qu'il y a de la politique dans la gestion du gouvernement. En fait, les gens qui sont là pour prendre des décisions. T'as la santé publique qui, eux, vont avoir des scientifiques, vont regarder des chiffres, puis vont y aller de certaines hypothèses. Mais quand François Legault dit, il l'a dit souvent dans les entrevues de fin d'année qu'il a faites, là, le poids de la décision, là, c'est moi qui va faire face à la population. C'est moi qui est redevable. Moi, je suis un élu, là. Moi, les gens vont me dire, les morts, t'es ça, c'est à conscience. Le fonctionnaire qui fait des chiffres, puis qui fait des PowerPoint, puis des chiffres Excel, je dis pas qu'il dort toujours bien, là. Il y a une pression, mais je veux dire, politiquement, c'est pas lui qui va prendre les décisions. Fait que le gouvernement, lui, avec les informations qu'il a, va essayer de prendre les meilleures décisions. Sauf que, puis moi, je l'ai vécu pendant plusieurs années en politique. Ce qui est difficile, là, particulièrement en ce moment, c'est que, c'est tout sauf une science exacte, la politique. Tu sais, il y a des gens qui regardent ça, puis je leur en veux pas, là, mais t'es assis confortablement dans ton salon, puis tu fais le Monday Morning Quarterback, là, puis ah, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Je comprends, mais eux autres, quand ils ont pris leur décision, ils ont été au meilleur de leur connaissance, ils ont été avec l'instinct. D'ailleurs, ça, l'instinct, j'en parle souvent, la plus grande qualité d'un politicien, là, c'est l'instinct. Puis ça, ben, ça s'achète pas au Walmart ni au Costco. Ça se développe pas.
C'est décevant que tu dis ça. C'est décevant parce que la plus belle qualité d'un politicien, j'aurais aimé, c'est d'être près du monde ordinaire. C'est d'être près du monde. Tu sais, l'instinct, ouais,
c'est
l'instinct.
C'est le côté
politique. Mais non, mais d'être proche du monde, de savoir un peu, de comprendre la réalité de ce monde-là. Tu sais, mettons, là, Céline Dion, là, elle est pas proche du monde. Tu comprends?
Ouais.
C'est les grands artistes, les superstars, là, sont complètement déconnectés de la vraie vie. Il faut. Puis les politiciens s'en vont dans ce chemin-là. Puis tu l'as été au bureau de Jean Charest. Ça devait être enivrant. Tu sais, quand vous étiez sur le spot, là, puis que vous preniez des décisions, puis ça devait quand même être enivrant. Ça devait être.
C'est clair. Tu sais, hey, prendre le téléphone, là. Quand tu travailles au bureau d'un premier ministre, tu prends le téléphone, tu appelles dans une organisation, une compagnie, dans un autre cabinet, un bureau d'un autre élu municipal, n'importe quoi, là. Puis là, Stéphane Dupont, s'il vous plaît, ouais, sur la part de qui il est occupé? Puis là, tu dis, Jonathan Trudeau au cabinet du premier ministre. Et tabarouette. Hein. Il n'y a pas une porte qui reste fermée. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'enivrant. Mais en même temps, tu dis que tu es déçu quand je parle d'instinct. Être proche du monde, là, je le mettrais dans la catégorie de l'instinct. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des gens qui disent qu'une des qualités de François Legault, c'est justement d'être proche des gens, de comprendre les satisfactions. Puis François Legault, là, il prend pas son samedi soir pour descendre dans la rue puis être sur le terrain puis aller rencontrer les gens. Il y a une partie d'instinct aussi. Puis l'instinct, c'est de connaître la population. C'est de savoir comment les gens vont réagir. D'anticiper que si tu fais ça, là, même si tout indique que c'est là que tu devrais aller sur papier, mettons les chiffres, les statistiques, tu fais comme... Non, ça, c'est pas une bonne décision ou ça passera pas. Donc, ce que tu dis là, moi, je le mets dans la catégorie de l'instinct.
Ouais.
Parce que juste, tu sais, de dire quelqu'un qui est proche du monde, c'est une qualité de ta personnalité, peut-être, mais je veux dire, l'instinct, là, ça s'achète pas, ça se développe pas. Combien de politiciens qu'on a vus, là, des gens là, avec des CV incroyables, là, un passé dans le milieu privé ou quoi que ce soit, ou dans les médias, là, tu sais, ils semblaient tout destinés pour aller en politique. Pierre-Carl Péladeau, mettons. Là.
Oui.
Il arrive en politique, puis au niveau de l'instinct, du feeling de « je prends-tu la bonne décision? Ça va-tu passer? Ça va-tu pas passer? » Ils sont zéro. Donc, les politiciens doivent avoir de l'instinct.
Oui, mais c'était quelqu'un qui était zéro aussi, qui a été jamais dans la vie normale. T'sais, c'est un gars qui est né dans une famille qui était déjà fortunée, ça a toujours grandi. T'sais, Justin Trudeau est dans le même pattern. Là. Il y a pas, je trouve qu'il est très, très déconnecté. T'sais, je le disais hier, tout ce qui est financièrement donné actuellement est complètement démesuré.
Oh, oui, c'est clair,
c'est clair. Incroyable. Des entreprises qui font 10 ans qu'ils font pas d'argent, qui là font de l'argent comme de l'eau, c'est uniquement à cause des subventions salariales, des prêts du gouvernement fédéral, de toutes ces choses-là. Fait que tu dis là, il y a quelqu'un de déconnecté, puis que je sais pas s'il a voulu acheter des votes ou quoi, puis tu dis peut-être un peu, mais en réalité, pour les gens, c'est pas la façon de gérer cette crise-là. Ça me paraît assez clair.
C'est clair. Mais en même temps, quand les gens questionnent les motifs profonds des politiciens, puis qu'ils disent « Ah, c'est juste parce qu'ils veulent se faire réélire, c'est juste parce qu'ils veulent se faire réélire », en ce moment, là, autant, je dirais plus François Legault, mais dans une certaine mesure, Justin Trudeau, après une coupe de verre, en tête à tête, leur demander « Ça te tente-tu de continuer? » Je serais curieux de savoir c'est quoi la réponse.
Les deux ont grisonné pas mal.
Est-ce que François Legault trippe en ce moment être premier ministre du Québec? Est-ce que c'est ça qu'il avait imaginé, c'était être premier ministre du Québec?
Je te jure que oui. Tu sais, moi, je pense que l'affaire du couvre-feu, là, c'est un peu quand même enivrant, là. Écoute, je le sentais hier. Tu sais, c'est pas le fun comme décision. Il est pas cave à temps plein. Mais lui, là, il regarde ça, il dit « Hey, je viens de dire à 8 millions de personnes, à 8 heures, vous restez chez vous. »
Mais c'est un sentiment de puissance. C'est sûr que c'est un sentiment de puissance. Mais enivrant, t'es-tu ça, c'est le bon mot?
Ben, je sais pas.
Plus le sentiment de puissance, je pense.
C'est que tu deviens, à un moment donné, tu te sens un peu invincible. Puis je me demande si ça vient pas. Moi, je donne toujours l'exemple. Une fois, à l'Impérial, Belle, il y a 1000 personnes, moi puis Bob, on organise un show, en tout cas, il y a un show de Bob, peu importe. Puis, je vais chanter avec lui une tonne, ils sont toutes folles, j'ai toujours... Et il y a 1000 personnes, puis je me souviens, quand je suis descendu de là, puis le monde crie ton nom, j'étais invincible ce soir-là.
Ah, c'est clair.
J'aurais pu... c'était invincible. Puis, j'ai entendu des grands artistes qui ont fait le Wembley à Londres, et devant des 90 000 personnes.
C'est ça qui leur manque.
Ils flottent, puis c'est pour ça, hein?
C'est ça qui leur manque. Moi, tu sais, on parle souvent de lutte ensemble. Il y a des gars qui ont quelque chose de super beau, pas respecté la lutte, quand tu te bats devant 80 000 personnes qui crient et sont pour toi, puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves chez vous dans ton sous-sol.
C'est justement, non, mais attends, mais le bémol à ce que tu dis là, je te dirais que oui, c'est grisant, mais c'est tellement bref dans le temps. Là. Pourquoi des grands artistes, des sportifs, pourquoi il y a tant de monde que tu dis, voyons, ils réussissent tellement, mais qui finissent toxicomanes, qui se suicident.
Ouais.
Parce que quand tu vis des affaires intenses de même, là, où tu as le pouvoir, la popularité, l'amour, Dans le temps, là, tu le vis, là. Écoute, c'est grisant, mais un moment donné, là, premièrement, ça peut devenir lassant. Mais quand t'arrives chez vous tout seul le soir, là, tu sais, ça se peut-tu, toi, quand tu te faisais acclamer parmi le quelques personnes, là, tu tripais, tu débarquais du stage, c'était invincible. Mais un coup que t'arrives tout seul dans le lit chez vous le soir, puis tu regardes le
plafond, j'arrive pas tout seul dans le lit ce soir-là.
Mais le premier ministre, il se fait pas acclamer.
OK, mauvais exemple.
Il se fait pas acclamer, le premier ministre.
Tu sais, mais François Legault, quand il est tout seul chez eux le soir, puis qu'il se met à repenser, à se second-guesser, à se remettre en question, peut-être que quand il était devant 3,5 millions de Québécois, au bulletin de nouvelles, que tu sais que tout le monde t'écoute, peut-être que ça, il y a quelque chose de grisant là-dedans, là. Mais le soir, quand il se remet en question, je suis pas sûr qu'il trippe tant que ça.
Je comprends. Puis je sais aussi, je me souviens que des gens que j'ai connus qui étaient là-dedans, qui m'ont parlé le soir de l'élection, la nervosité, puis de vivre la défaite, puis que t'as 24 heures pour ramasser tes boîtes, c'est puis t'as beau avoir un an de salaire quand même qui va suivre tout ça, et c'est pas un beau sentiment, là. C'est très, très difficile.
Des fois, même quand tu gagnes, Steph. Quand tu gagnes. Tu sais, quand je t'ai raconté l'anecdote du sapin de Noël, là, il y a une couple de semaines, au lendemain de l'élection, tu sais, bon, j'étais dans ma mise en contexte, je te disais, on venait de passer 34 jours dans un autobus, puis cette période-là de ma vie professionnelle, là, après 30 quelques jours de campagne où t'es dans une bulle, l'adrénaline est dans le piton, tu sais pas si tu vas avoir une job le lendemain ou pas, etc. On avait été réélu majoritaire, là. On a gagné. Ça a été la plus grande déprime que j'ai eue de ma vie.
Comment ça?
Parce que le même principe que je viens de t'expliquer, le high est tellement fort que quand ça s'arrête, quand l'adrénaline tombe, là, tu pognes une déprime. Bien des athlètes, Ray, tu le sais, des athlètes olympiques notamment, là, c'est tellement le high, l'intensité, c'est tellement élevé, puis il arrive à une compétition, puis des fois, ils gagnent, là. Mais quand tout ça arrête sec, là,
ben oui, le parcours, est plus intéressant que le résultat ou la finition.
Ouais, puis je l'ai toujours dit, Wayne Gretzky l'a écrit. Tu sais, après avoir gagné, il avait vu comment c'était exigeant, puis que c'est pas, tu sais, on pense que c'est le plus gros des parties. Il raconte que les plus gros parties, c'était pas les journées où ils ont gagné la Coupe Stanley. Là, tu sais, il y a eu d'autres moments parce que là, t'as gagné, c'est fait, puis il y avait cette, je comprends, il y avait cette drop là. Toi, ton parcours en politique, est-ce que quand tu commences ça, tu voulais être politicien un bout?
Ah non, tellement pas.
Non?
Non, moi, j'ai commencé à m'impliquer pour les jeunes libéraux, d'abord et avant tout pour les filles. Pour le party, quand j'ai commencé, j'ai tout le temps...
C'est sûr.
Non, mais attends. Hey, t'as jamais été dans un congrès des jeunes libéraux, toi, là?
Je sais pas, je me vois là avec Agnès Malte,
Pogne Agnès Malte chez jeunes libéraux, t'es pas bonne.
Attends, c'est contrairement à ce que ben du monde pense, là, les jeunes qui font de la politique, c'est vraiment wild. Je le sais, c'est dur à dire, là.
Ben non, moi, je pense qu'ils ont des boutons, puis ils ont pas sorti du sous-sol tant qu'il n'y a pas eu le congrès, là.
Non, mais attends, juste... OK, mettons que je te donne que c'est probablement pas les plus sociables puis les plus populaires de la gang. Quand ces gens-là se réunissent dans une fin de semaine puis qu'ils se mettent à virer leur première brosse à vie à 16, 17, 18 ans, ça dérape solide, là. Fait que moi, c'est ça qui m'avait amené. Ma soeur faisait la politique, puis j'étais allé là pour ça. Mais après ça, c'est juste la sécurité qui m'a amené en politique. Je voulais être policier. Okay. J'allais dans un congrès, puis j'étais responsable de la sécurité. J'avais aucun espèce d'intérêt pour la politique. Puis après ça, ben vers 20 ans, là, j'ai développé l'intérêt pour les relations publiques. Puis j'ai eu envie d'être attaché de presse, puis de gérer des médias, puis tout ça. T'sais, moi,
mais est-ce que tu dis non, tu te présenterais jamais?
Aujourd'hui, là, je peux dire que je n'ai jamais l'intention de me présenter. Tu verras jamais ma face sur un poteau.
Okay.
Parce que justement, je l'ai trop vécu de près à quel point ces gens-là me mettent toute sa table, qu'il n'y a pas de reconnaissance, que c'est rendu de plus en plus exigeant.
Pis c'est pas des revenus wow.
Mais là où j'ai évolué, ça fait déjà 10 ans que j'ai quitté la politique. Là où j'ai évolué, c'est que je ferme pas la porte à un jour retourner faire la politique, mais encore en coulisses.
Okay.
Tu sais, mettons être chef de cabinet, être directeur des communications ou parce que c'est le fun. T'as l'espèce de pouvoir grisant qu'on parlait, là, l'influence d'indécision, tu l'as. Mais c'est pas ta maudite face qui est sur le poteau. C'est pas toi qui risque de se faire démolir à tous les jours.
Mais en même temps, t'as pas le point final. C'est encore drôle. Il y en a beaucoup qui essaient de se faire une pancarte en avant dans certains cas.
Ben, je te dis pas que c'est tout ça. Parce que en même temps, je fais un effort d'essayer que les gens apprécient plus le travail des politiciens. Je me tirerais dans le pied de dire que c'est tout des marionnettes.
Oui, mais c'est la vérité. Faut dire la vérité.
Mais un bon politicien, là, un bon ministre, va regarder c'est quoi toutes les opinions qu'il va avoir autour de lui. Puis il va se faire sa propre tête avec ce que les gens vont dire. Mais ça t'empêche pas d'être autour de ces gens-là puis de t'assurer d'avoir ta place, d'être influent, puis que plus souvent qu'autrement, la décision que ton boss va prendre va aller dans le sens de ce que tu avais suggéré.
Un des meilleurs que tu as vu.
Ben, écoute,
c'est pas être pour politicien, donc stratégique, puis le parti gagnait des votes à avoir allé ce gars-là, mais un travailleur. Moi, je vais te donner un exemple, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les coulisses de la politique qui m'ont dit énormément de bien du docteur Barrett. Ils m'ont dit, écoute, c'est un travaillant. Ils avaient rarement vu un politicien aussi haut classé et aussi travaillant que Gaétan Barrett. Même si on était d'accord ou pas avec ce qu'il faisait, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de lui. Et je pense qu'il a fait des bonnes choses aussi, mais je le connais pas, là.
Jean Royer, on a beaucoup parlé de ce monsieur-là. Ça n'a pas été un gars très, très public, mais il a eu de l'influence au Québec, ce monsieur-là.
Oui. Mais en fait, c'est que le rôle des politiciens a tellement changé. Là. Moi, je regarde les politiciens les plus inspirants dans leur action politique, là. Pas dans la capacité d'être un bon communicateur, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on recherche, là. Mais si tu regardes, même si je suis pas souverainiste, tu regardes à l'époque de René Lévesque, les politiciens qu'il y a eu là, écoute, ils sont incroyables, là. T'sais, moi, mon idole en politique, c'est Lucien Bouchard. Ouais. Bizarrement, il a essayé de séparer le pays, puis j'étais un fédéraliste. Mais comme capacité à premièrement, l'intelligence brute d'un gars comme Lucien Bouchard, ça a pas
je pense
commis
la même
mesure.
Chose que toi.
Mais c'est ça. Mais il reste que j'aime aussi des politiciens qui ont un côté partisans parce que ça en prend un peu, mais qui sont efficaces. Tu sais, Claude Béchard, que j'ai adoré, qui est décédé. Je me souviens que toi, t'avais eu un bel épisode avec lui à l'époque où j'étais au gouvernement, mais finalement, après ça, vous aviez développé une belle...
On s'est chicané la première journée, puis après ça, on est devenus quasiment amis. Là. C'était
c'est ça.
Très proche.
Claude Béchard était exceptionnel. J'ai travaillé pour Nathalie Normandeau. Nathalie avait des qualités, avait certains défauts comme politicienne, mais c'était pas la plus partisane de la gang. Mais Nathalie, de s'asseoir dans une salle avec du monde qui était à l'opposé, là, qui voulait s'arracher les cheveux de sa tête puis dire on sortira pas d'ici tant qu'on se sera pas entendu, puis de faire une espèce de rôle de médiation, puis d'être très, très pragmatique dans ses décisions. Moi, je ne traite pas ces politiciens qui sont trop théoriques, là. Tu sais, ceux que tu comprends pas quand ils parlent. Moi, j'aime quelqu'un qui est pragmatique, là, qui va dire, bon, c'est quoi le problème, là, puis on va trouver
solution
A, B. T'sais. Moi, c'est ce que j'aime comme type de politique. Mais écoute, tu sais, j'ai travaillé pour Jean Lapierre, pour Nathalie Normando, pour Jean Charest. Si tu me demandes des exemples de bons politiciens.
Je pense que
tu
as...
Mario Dumont. Mario Dumont a quand même été marquant.
Mais Mario Dumont, c'est... Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait une chance de se faire valoir.
Ouais.
C'est sûr, bon, il a été chef de l'opposition, mais j'aurais aimé ça le voir au pouvoir. J'aurais aimé ça voir Mario Dumont ministre, mettons.
Mais il sera encore meilleur aujourd'hui? Je veux dire, s'il avait... Mettons, il a été un an et demi à l'opposition, s'il avait été élu par après... Il était peut-être pas prêt encore, comme aujourd'hui, j'écoute ses commentaires, je vois sa façon de prendre son temps de répondre aux questions, puis de vraiment répondre ce qu'il pense vraiment lui, parce qu'il n'a pas à représenter un parti. C'est ça toute la différence. Mario Dumont, puis la plupart des politiciens qui prennent leur retraite, écoute, quand tu lis Facal, là, tu sais, ce gars-là, en politique, j'avais envie de le frapper. Mais à cette heure, tu lis, puis souvent, son propos est très cohérent parce que c'est le sien. C'est pas celui d'une ligne de parti. Ouais. Alors, Mario Dumont, aujourd'hui, ferait peut-être un bien meilleur premier ministre qu'à l'époque. Là.
Absolument. Puis j'ai déjà dit à Mario Dumont, un peu chaud d'ail après une partie de beer pong.
Oui, Mario, viens ici, beer pong avec Mario.
Tu sais qu'on était en train d'organiser un championnat du monde de beer pong
dans les intensifs? Ouais, je suis très bon. En passant, je te le dis, là. Dès ces mois, on a déjà gagné. Vincent Dessureau et moi, on a gagné des championnats de beer pong au party de Salut Bonjour Week-end. Mais c'est une autre histoire. Mais j'ai déjà dit à Mario Dumont, un peu chaud d'ail avec une coupe de verre dans le nez, que la seule personne qui me ferait retourner en politique, c'est probablement lui.
C'est lui, hein?
Mais il veut rien savoir. Il veut absolument rien savoir.
Bon, ben dans deux semaines, on parle
Stéphane,
des... Oui, Kiwi?
Ça fait du bien du contenu dans ton show un peu.
Okay. On bonne va journée. Veux-tu qu'on le passe en boucle, mon Kiwi?
S'il te plaît.
Quand vous entendez le canard comme ça, c'est juste pour dire que Kiwi va intervenir.
Wow, j'adore ça.
L'appel du canard.
Ouais. OK, fait que la semaine dans deux semaines, on parle des pires policiers. OK?
Oui, OK. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux dire.
Tu vas-tu demander parce qu'il reste-tu des sacs cachés?
As-tu de l'argent de caché encore? Il est tout déterré, là.
Puis il y a une autre question. Jonathan Trudeau, y a-tu déjà eu une vraie job?
Ah oui, c'est
les journalistes, c'est pas une vraie job, puis en politique, c'est pas une vraie job.
Alors moi, j'ai été directeur des communications d'Aéroport de Québec pendant 5 ans.
Fait que c'est hey, finalement, ton CV, je le veux pas, moi. Il m'a gardé le mien.
Un petit commentaire, Margaret.
Fait que finalement, ça aura duré une fois, cette chronique-là.
Non, arrête, je suis content que tu viennes. Fait qu'on se reparle dans deux semaines, Jonathan. Yes, merci d'être passé. Jonathan Trudeau est avec Jérôme Landry tous les matins à compter de 10 heures ici au 93.